Bonjour Raymond Bouchard au micro, eh bien nous nous retrouvons avec Monsieur Bourgès Menoury pour l'émission Bienvenue en Europe. Et dans notre dernière émission, nous évoquions que Martin Schulz, président du Parlement, allait changer. Et puis on va donc entendre un peu l'actualité européenne. C'est quoi ?
Alors effectivement, le Parlement européen, on l'avait annoncé lors de notre dernière émission, a élu un nouveau président, puisque Martin Schulz, qui présidait cette institution depuis 2 ans et demi, a décidé de poursuivre sa carrière politique au niveau allemand. Et il est lui-même candidat pour les socialistes en Allemagne au poste de chancelier contre Madame Merkel. Donc il s'est dégagé du Parlement. Du coup, une nouvelle élection s'est tenue et le 17 janvier dernier, c'est un Italien, Antonio Tajani, qui l'a remplacé, élu notamment par son propre parti, bien sûr, le Parti populaire européen, et avec l'appui des libéraux, mais également aussi des conservateurs britanniques et des nationalistes polonais. Cet ensemble n'a pas...
Très hétéroclite,
parce qu'il y a à la fois des pro-européens et d'autres qui sont plutôt...
Contre.
Sans l'être tout à fait, qui sont un peu douteux vis-à-vis de leur propre engagement. Donc on se retrouve avec un président du Parlement qui est en plus un ancien commissaire européen, ce qui pourrait être à la fois un gage, mais il était à l'époque de Barroso, commissaire pendant 4 ans sur l'industrie, et il n'a pas laissé des souvenirs extraordinaires de sa prestation à Bruxelles. Et puis, par ailleurs, il est membre et même fondateur, si je ne m'abuse pas, de Forza Italia, qui est le parti de Berlusconi. Donc on se retrouve avec un président au niveau du Parlement européen qui est tout à fait différent du précédent. Il faut se rappeler que le précédent avait conclu une alliance avec le groupe PPE. Donc le PPE, ce sont les conservateurs. Et les deux grands groupes au Parlement européen, ce sont les conservateurs en premier, ensuite les socialistes, les libéraux, et puis ensuite toute une série de plus petits partis. Les extrémistes de droite, dont le Front National, sont à part, évidemment, dans ce schéma-là. Ce qui change au niveau du Parlement européen, indépendamment de la personnalité du nouveau président, qu'il n'y aura plus, du fait de cette coalition qui est terminée, il n'y aura plus de majorité absolue pour faire passer les positions du Parlement par rapport à la législation européenne.
Donc c'est intéressant, c'est plus de démocratie.
Tout à fait intéressant. Et donc il faudra recomposer des alliances au sein de ce Parlement pour telle ou telle loi, directive qui devrait être adoptée par ce Parlement. Donc là, on va assister finalement à quelque chose d'important. On verra dans l'avenir qu'est-ce que cela va donner. Mais d'ores et déjà, ceux qui se retrouvent dans l'opposition donc maintenant par rapport à M. Tajani et des conservateurs l'ont tout à fait souligné en disant que enfin, on va pouvoir dire ce que nous pensons par rapport à telle ou telle problématique. Et les verts, les environnementaux, toute une série de la gauche européenne se réjouit de pouvoir manifester enfin ce qu'elle pense d'un certain nombre de propositions qui ont été jusqu'à présent adoptées du fait de la coalition. Qui devaient finalement entériner des choses qui ne leur plaisaient qu'à moitié. Donc on va avoir un nouveau spectacle du côté de Strasbourg et de Bruxelles. Et donc voilà un peu la nouveauté.
Donc plus de démocratie, mais c'est peut-être aussi un bon signe, puisqu'on voit quand même que sur le plan international... Oui, justement, par rapport aux internationaux, mais en tout cas, bon, je poursuis quand même. Sur le plan international, on vient de voir que Donald Trump a affaire à une opposition et que on perçoit qu'il y a une véritable démocratie dans ce pays, puisque la justice est séparée du législatif et de l'exécutif. Et on perçoit aussi, ça c'est la grande puissance américaine, mais en même temps, la Roumanie. Et en Roumanie, là aussi, c'est différent de l'Europe, mais il n'empêche que lorsque les pays d'Europe de l'Est sont entrés dans l'Europe, une des conditions pour entrer dans l'Europe, c'était justement cette démocratie. Et c'est intéressant de voir que les pays d'Europe, c'est vrai que maintenant ça fait 30 ans que la chute du mur a eu lieu, mais les pays d'Europe sont entrés en démocratie. C'est bon signe, non ?
Tout à fait. On le souligne d'ailleurs jamais assez. On parle évidemment toujours, parce que ça meilleure presse, de parler de ce qui ne va pas. Mais à force de dire ce qui ne va pas, on oublie les aspects positifs de la construction européenne. Alors évidemment, on ne va pas encore redire, enfin on le dit quand même, que parce qu'on ne s'en rend pas toujours tellement compte de l'avantage que c'est que d'avoir la paix. Ça fait quand même plus de 60 ans que nous sommes en paix au sein du continent européen, ce qui est, sur le plan historique, extrêmement rare.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure. Alors évidemment...
Ceci dit, je vous coupe, mais un autre atout de l'Europe, c'est... Aux yeux des Européens, c'est le sondage de 2016, transmis par la Fondation Robert Schuman, je vous cite mes sources, c'est que 57% des Européens sont contents de la libre circulation des personnes. On en reparlera si on reparle des questions de migrants et de dumping social ou autre.
Oui, en tout cas, pour la dimension démocratique, il faut quand même le rappeler, là aussi, c'est très bien de l'avoir souligné là, il y a un instant, c'est que l'on se retrouve du côté de la Roumanie, du côté maintenant, vu le contexte international très tendu avec la nouvelle administration américaine, du côté russe, du côté du Moyen-Orient, etc., tous les grands risques internationaux qui sont là, il se trouve que les pays, notamment de l'Est, en particulier la Pologne, les pays baltes, commencent à regarder de plus près comment est-ce que l'on pourrait mieux renforcer l'Europe dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Donc du côté purement démocratie, on voit que les Roumains n'entendent pas se laisser faire par un gouvernement qui voulait revenir sur des lois qui avaient été prévues contre la corruption.
Oui, c'est ça,
et donc ils ont été d'ailleurs condamnés par la Commission européenne qui a accusé les Roumains d'un rétropédalage. Donc il y a toute une ambiance comme celle-là et qui se retrouve au niveau de l'actualité, puisqu'il faut y revenir, au sommet de Malte qui s'est tenu il y a quelques jours, au moment où nous enregistrons, qui s'est tenu le 3 février dernier, et ce sommet a été consacré à l'immigration, puisque les Maltais qui assurent la présidence de l'Europe, la présidence tournante, tenaient beaucoup à ce qu'on mette ceci en avant, et ça tombe effectivement bien au niveau de l'actualité et des préoccupations des Européens. Donc ce sommet s'est tenu, a décidé de renforcer des accords et en mettant de l'argent sur la table pour que du côté de la Libye on fasse en sorte de freiner absolument par tous les moyens possibles le flux de migrants qui traversent la Méditerranée, donc Méditerranée du côté sud, plus du côté maintenant Grèce-Turquie, mais du côté libyen. Donc le sommet de Malte a été consacré là-dessus, mais ce que moi j'en retiens en dehors de cette dimension purement pratique, c'est quand même une déclaration du président du Conseil européen, M. Tusk, qui se trouve être un ancien Premier ministre polonais, et qui a mis en avant les menaces actuelles au plan international pour demander un renforcement de l'Europe et une relance, y compris au plan politique. Et donc, il a été admis par les États membres, les 27, non comptés évidemment les Britanniques, pour la raison que l'on peut deviner. Donc il y a un accord pour essayer de mettre en avant, à l'occasion de la réunion de Rome du 25 mars, qui célébrera le 60e anniversaire du traité de Rome, précisément à Rome. Donc il est convenu qu'il y aura une feuille de route qui va être mise sur la table pour renforcer l'Europe et rebondir dans ce contexte extrêmement difficile actuel. Alors c'est tant sur le plan évidemment des dossiers actuels, migration, on a vu, encore qu'il faut souligner que les courants migratoires ont été, en ce qui concerne la seule Méditerranée, ont diminué très très fortement au cours des derniers mois. Mais ceci étant, le paquet, donc maintenant et dorénavant, pour faire un peu comme avec la Turquie, on essaie de retenir sur place les candidats.
On externalise le contrôle aux frontières.
On verra ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, voilà quel est en ce qui concerne la dimension purement maltaise. Alors après, on a parlé du contexte. Des États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez souligné qu'il y a la démocratie qui n'est pas morte, puisqu'il y a des manifestations extrêmement importantes et qui sont jamais vues aux États-Unis par rapport, peu après l'élection d'un nouveau président. Et du côté européen, ça peut être une occasion de rebond. Alors ce qui est inquiétant, évidemment, c'est que ce nouveau président n'est nettement pas favorable à la construction européenne. Il souhaite même son éclatement.
Bien sûr.
A proposé dernièrement de nommer un ambassadeur auprès de l'Union européenne. Et cet ambassadeur est absolument dénoncé. Ce futur ambassadeur, il n'est pas encore désigné, mais il est suggéré dans l'entourage de M. Trump. Et l'Europe, en particulier le Parlement européen, vient de prendre une position extrêmement dure en rejetant absolument la nomination à l'acceptation d'un tel ambassadeur des États-Unis en Europe, parce que ce futur en principe ambassadeur a pris dans le passé récent des positions extrêmement dures contre l'Europe et pour carrément favoriser son éclatement. Donc, il a indiqué que l'Europe était un peu comme le système soviétique. Donc, il y a vraiment une vision américaine absolument effarante quand on pense à ce que représente le projet européen de départ. Alors, on peut évidemment regretter certaines dérives actuelles, mais en tout cas, c'est quand même un projet démocratique, un projet pour la paix, et qui a toujours misé sur l'alliance transatlantique précisément
en tout cas,
le lien des démocraties
voilà.
Entre elles. Donc là, il y a vraiment des préoccupations. Un autre représentant d'ailleurs de l'administration américaine est venu parler de l'environnement, il s'est fait huer en Europe. Donc il y a maintenant des positions extrêmement dures, également du côté européen, en réaction aux positions américaines. Alors on verra où tout cela va mener, mais c'est quand même assez préoccupant. Mais, comme on l'a dit, ça peut être l'occasion d'un rebond de l'Europe, ne serait-ce que déjà au plan non seulement politique, mais commercial, et surtout la dimension défense. Parce que là, si on regarde les choses en place, l'Europe est à la fois un géant commercial économique qui fait jeu égal avec les grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, mais sur le plan politique, est un véritable nain et qui n'a pas une armée européenne. Alors,
on ne va pas revenir sur l'armée européenne, mais de fait, le renforcement, c'est bon signe quand même que le Parlement réagisse, enfin bref. À cet égard, c'est vrai aussi que de nombreux médias mettent l'accent sur des points qui finalement concernent peu de monde. L'incidence des printemps arabes et les gens qui sont venus par la Méditerranée, c'est 180 000 personnes en 2016. En novembre 2016, on les avait évaluées contre 150 000 en 2015. Mais c'est vrai que là, il y avait eu l'incidence des printemps arabes. On externalise la question des frontières. ce qui va peut-être nous amener à reparler un peu de ce qu'est Schengen en réalité. Je crois, à côté de ça, et après une pause musicale, nous allons voir aussi comment l'Église se positionne par rapport à l'Europe. Eh bien, nous poursuivons sur l'émission Bienvenue en Europe et nous évoquions les propositions des évêques de France. Alors voilà ce qu'ils disent dans le texte qu'ils ont commis sur la vie politique, retrouver le sens du politique. À cet égard, ils prennent aussi position vis-à-vis du projet européen. Ils rappellent sa création. Pendant longtemps, il a été mobilisateur, même si on pouvait s'opposer à ce projet. Il s'est construit grâce à une poignée d'hommes réalistes et visionnaires. Bref, un projet extrêmement positif. Aujourd'hui, disent-ils, ce projet marchand et normatif intéresse moins, même n'intéresse plus personne. Mais, disent-ils, le risque est d'oublier que la construction européenne, je cite toujours, a permis non seulement la paix dans une région si longtemps ravagée par des guerres à répétition, mais une ouverture et un enrichissement mutuel par la libre circulation des personnes, des biens et des idées. Il faut redonner au projet européen son souffle politique et démocratique. Et on voit que c'est ce qui se passe finalement lorsque le Parlement réagit. Une nation ne peut répondre seule aux défis. Un projet européen repensé peut et doit permettre le respect et l'expression des identités nationales, c'est exactement le texte du projet européen. Une véritable cohésion ne supprime pas les pluralités, mais les fait travailler dans un sens commun. Cela va à l'encontre de beaucoup de discours ambiants. Pour un tel chantier, il faut de vrais Européens, courageux et créatifs. Donc on voit quand même l'importance de ce projet européen. Et à cet égard, parce que dans les crises politiques qui existent, il y a un point, tout à l'heure vous évoquiez les opposants, mais je crois qu'il serait intéressant quand même de rappeler aussi, au moment où on parle beaucoup de l'affaire Fillon, que les partis nationalistes européens ont aussi des mailles à partir avec le Parlement européen concernant la justice même, concernant la fraude, concernant... Et là, il ne s'agit pas simplement de « on va attendre le résultat de la justice », mais de choses qui sont avérées. Moi, je voudrais que vous nous donniez quelques précisions là-dessus.
Oui, au niveau du Parlement européen, la presse, les médias ont évoqué, mais très peu, le fait que Marine Le Pen, qui est, comme l'on sait, candidate à la présidence de la République en France...
Mais c'est surtout comme européenne que
j'entends. Et qui est députée européenne... Eh bien, elle est poursuivie au niveau juridique pour rembourser un montant de quelque 300 000 euros qui a été indûment versé à elle pour employer des assistants parlementaires, indûment parce que ces assistants parlementaires n'ont pas travaillé au Parlement européen, mais en France, au siège du Front National. Et ceci mérite d'être souligné, parce que vous l'avez indiqué, il y a un parallèle, mais qui, là, par rapport à l'affaire Fillon, est quand même à faire, mais aussi est tout à fait accablant concernant le Front National. Il y a, à l'heure actuelle, une vingtaine d'assistants parlementaires qui ont été payés par l'Union et qui, en fait, ne travaillaient que pour le parti de Marine Le Pen, au lieu de travailler pour le Parlement européen. L'Office européen de lutte anti-fraude avait été saisi déjà, ça remonte à pas mal de temps, en 2015.
Il y a eu
une enquête et elle a conclu que, effectivement, ces montants ont été payés à des gens qui ne travaillaient pas dans le cadre du Parlement européen. Or, le règlement intérieur du Parlement européen est absolument strict. Et seuls peuvent être pris en charge les frais correspondants à l'assistance nécessaire et directement liée à l'exercice du mandat parlementaire des députés au niveau européen. Donc il y a une condamnation directe. Et puis on voit que la présidente du Front National a employé en ce qui la concerne, c'est là où la presse met un peu l'accent, mais sans trop approfondir à l'heure actuelle, sur le fait qu'elle avait une assistante qui travaille directement à Paris et pas du tout dans le cadre du Parlement européen, et puis un deuxième assistant qui, en fait, est son garde du corps et qui n'a strictement rien à voir avec les affaires traitées au Parlement européen. Donc il y a véritablement une condamnation. Et cela paraît quand même assez extraordinaire que malgré cet aspect des choses, eh bien, la France se permet d'avoir des débats sur l'Europe qui sont absolument ahurissants, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'avec un tel background juridique derrière soi, on arrive à se présenter sans même ou en faisant fi de toutes les critiques éventuelles qui pourraient subvenir. Alors évidemment, Marine Le Pen a déclaré, je crois, par ailleurs, face aux critiques, en disant « Ah oui, mais de toute façon, le Parlement européen, comme nous, on travaille pas pour le Parlement européen parce que nous sommes contre l'Europe ». Mais n'empêche qu'elle a quand même pris l'argent qui lui était attribué pour ses opérations purement nationales. Donc voilà, c'était un aspect à souligner dans le cadre des présidentielles françaises qui, rappelons-le par ailleurs, laissent peu de place aux questions européennes. Peut-être on verra dans la suite des événements, mais c'est un peu regrettable parce qu'on parlait tout à l'heure des aspects un peu inquiétants de la conjoncture internationale. Et encore une fois, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons être indépendants et certainement pas par un repliement sur la dimension purement identitaire nationale. Et c'est d'ailleurs le président du Conseil européen qui l'a souligné au niveau du Conseil de Malte, dont on a parlé il y a un instant. Il a renvoyé aux Américains leur devise en faisant la sienne, en disant la devise américaine, c'est « Unis, nous vaincrons, divisés, nous échouerons ». Et il le reprend précisément à notre compte en disant que l'Europe doit se relever et se redresser.
À cet égard, souvent on évoque la libre circulation en Europe. Alors d'abord, elle est plébiscitée par 57% des citoyens, ce qui me paraît intéressant. Et puis surtout, dans les médias, on fait allusion surtout aux travailleurs détachés ou bien à ce qui apparaît comme étant négatif. Alors je voudrais rappeler que ces travailleurs détachés ne représentent que très peu de personnes, c'est-à-dire moins de 1% de la population européenne, c'est-à-dire moins de 5 millions de personnes, puisqu'en fait même 0,5%. Et puis que la loi prévoit pour les travailleurs détachés les mêmes conditions d'embauche et les mêmes conditions de salaire. C'est au niveau des cotisations sociales et au niveau notamment des cotisations patronales qu'il y a des différences. France, 49% de cotisations patronales, alors qu'en Angleterre, c'est 10%, Luxembourg, 15%, et Belgique, 48%, pour donner quelques chiffres, mais je ne voudrais pas vous assommer. Les cotisations sociales, alors, Là où quand on parle de dumping social, c'est très intéressant aussi de repérer qu'un pays comme le Danemark, où le coût moyen de la main-d'œuvre est le plus élevé en Europe, c'est-à-dire 41,30 € de l'heure. C'est ce même pays, le Danemark, dans lequel les cotisations sociales ne sont que de 13%. Et inversement, en Bulgarie, le coût moyen de la main-d'œuvre, c'est de 4,08 €. Alors on voit bien aussi, lorsque l'intérêt des travailleurs détachés pour les entreprises qui les emploient, c'est que les cotisations sociales sont payées sur la base du pays de départ. Donc, bien, si on emploie un travailleur bulgare, on le paie comme un travailleur français, à condition d'ailleurs qu'il fasse valoir ses droits, parce que là, il y a encore l'obstacle linguistique. Mais par contre, en ce qui concerne les charges sont payées sur la base du salaire bulgare. Donc, c'est là. Et alors, à cet égard, la Commission européenne s'est penchée sur la question. Et tous les gens disent, nous voudrions que les camions qui circulent en France, les camions français, aient les mêmes charges sociales. Alors c'est vrai hein, que les 32% de charges sociales qui incombent aux entreprises de transport en France ne sont pas les mêmes que celles pour les transporteurs irlandais. Bon, puisque c'est de 32% contre 13%. Mais en même temps, il faut voir que lorsque le Parlement, la Commission a proposé qu'il y ait un lissage, que l'on revienne, que l'on établisse des mesures contre le dumping social, avec en contrepartie la liberté d'établissement et de liberté, ce sont les parlements nationaux qui ont refusé ces dispositions. Donc il y a peut-être à revoir les choses. Parce que lorsqu'on dit c'est l'Europe qui provoque ces distorsions, en fait, on est bien conscient en Europe, au niveau de la Commission, au niveau des autorités européennes, qu'il y a des distorsions. Mais on voit aussi que ce sont les pays, chacun des pays, qui dans certains cas refusent ces mesures d'ajustement, d'harmonisation. Et malgré tout, la Commission persiste et signe, et que peut-être avec le nouveau Parlement, elle aboutira. Mais l'objectif, c'est de chercher la convergence économique et sociale au niveau européen. Je crois que ça, c'est très important à savoir. Le mot de la fin ?
Eh bien, je crois que vous avez très bien présenté la chose en soulignant que précisément, l'Europe, ce n'est pas toujours ce que l'on dit. C'est à l'heure actuelle, ce qui ne marche pas est bien souvent le fait des États et pas des institutions qui ont été mises en place dans l'esprit de développer l'intérêt commun à valoriser ensemble.
Eh bien, sur ce, bonne semaine à tous, au revoir.